malgré eux. C'étaient leurs travaux, leurs livres, les récits de leurs explorations qui étaient utilisés par les soldats. On savait que les cartes ne servaient qu'à faire la guerre, disait François-Marie. Eh bien, les récits de voyage aussi. Depuis que Bonaparte, en Égypte, en 1798, avait mis à contribution les savants pour rédiger sa proclamation aux Égyptiens et essayer de passer pour leur libérateur, les scientifiques, les artistes et leurs travaux s'étaient retrouvés à participer, bon gré mal gré, aux enjeux politiques et économiques de l'époque. Il n'était néanmoins pas possible, soutenait Sarah, de condamner tout ce petit monde en bloc. Autant reprocher à la chimie la poudre et la balistique à la physique. Il fallait ramener les choses à l'individu et s'abstenir de fabriquer un discours général qui devenait à son tour une construction idéologique, un objet sans autre portée que sa propre justification. Le débat est devenu houleux. Sarah avait lâché le grand nom. Le loup était apparu au milieu du troupeau dans le désert glacial. Édouard Saïd. C'était comme invoquer le diable dans un couvent carmélite. Bilger, épouvanté à l'idée qu'on puisse l'associer à un quelconque orientalisme, commença immédiatement une autocritique embarrassée en reniant père et mère. François-Marie et Julie étaient plus nuancés sur la question, tout en reconnaissant que Saïd avait posé une question brûlante mais pertinente, celle des rapports entre savoir et pouvoir en Orient. Je n'avais pas d'opinion, et je n'en ai toujours pas, je crois. Édouard Saïd était un excellent pianiste. Il a écrit sur la musique et créé avec Daniel Barenboim l'orchestre Weststicher Divan, géré par une fondation basée en Andalousie, où l'on s'attache à la beauté dans le partage et la diversité. Les voix commençaient à être vaincues par le vin, le froid et la fatigue. Nous avons installé nos lits de fortune à même le rocher du parvis. Julie et François-Marie d'un côté, Sarah et moi de l'autre. Bilger et sa bouteille avaient préféré, sans doute plus malin que nous, se réfugier dans la voiture, garée quelques mètres en contrebas. Nous les avons retrouvés au petit matin. Bilger assis sur le siège du conducteur, le visage écrasé contre la vitre couverte de buée, et la bouteille vide, coincée dans le volant, pointant son goulot accusateur vers la figure de l'archéologue endormi. Deux couvertures dessous, deux dessus, voilà notre couche palmyréenne. Sarah s'était roulée en boule contre moi, le dos près de mon ventre. Elle m'avait demandé gentiment si cela ne me dérangeait pas. J'avais essayé de ne pas laisser paraître mon enthousiasme, non, bien sûr, nullement, et je bénissais la vie nomade. Ses cheveux sentaient l'ambre et le feu de bois. Je n'osais pas bouger, de peur de troubler sa respiration dont le rythme m'envahissait. J'essayais d'inspirer comme elle, adagio d'abord, puis l'argot. J'avais auprès de ma poitrine la longue courbure de son dos, barrée par le soutien-gorge, dont je sentais l'agrafe contre mon bras replié. Elle avait froid aux jambes, et les avait un peu entortillées dans les miennes. Le nylon était doux et électrique à la fois contre mes mollets. Mes genoux dans le creux des siens, il ne fallait pas que je pense trop à cette proximité, ce qui était bien sûr impossible. Un désir immense, que je réussissais à étouffer, me consumait malgré tout, en silence. L'intimité de cette position était à la fois chaste et érotique, à l'image de l'Orient lui-même. Et avant d'enfouir pour quelques heures mes paupières dans ses boucles, j'ai jeté un dernier regard, au-delà de la laine bleue, vers le ciel de Palmyre, pour le remercier d'être si inhospitalier. Le réveil fut cocasse. Les voix des premiers touristes nous secouèrent juste avant l'aube. Ils étaient souabes, et leur dialecte chantant n'avait rien à faire à Palmyre. Avant de repousser la couverture sous laquelle nous grelottions, enlacés comme des perdus, je rêvais que je m'éveillais dans une auberge près de Stuttgart,